Aujourd'hui, je voulais juste prendre un tout petit point, c'est les leaders et les décisions. Les leaders et les décisions. Qu'en principe, tout leader doit savoir qu'il doit avoir l'aptitude et la capacité à prendre des décisions. C'est-à-dire à lever des fois des options desquelles dépendent la vie de plusieurs. J'ai beaucoup aimé une belle phrase prononcée par un premier ministre anglais, Churchill, qui a dit à un moment, il y a des moments dans l'histoire où la vie de plusieurs dépend des décisions d'une minorité. C'est-à-dire, une minorité décide, mais l'influence se répercute sur les autres. Prendre des décisions, cela signifie plusieurs choses. Cela signifie lever des options. Prendre décision, cela signifie choisir des hommes. Prendre des décisions signifie trancher devant un conflit. Prendre des décisions signifie sanctionner ou punir. Prendre des décisions, c'est accepter ou refuser une proposition. Prendre des décisions, c'est donner son point de vue concernant un problème. Et ça, tout véritable leader doit savoir qu'il ne peut pas éviter cela. Un jour ou l'autre, il est appelé à être celui qui lève des options. Nous avons dit déjà, à un moment, quand nous parlons du leadership de Jésus-Christ, nous avons dit que derrière chaque choix, le leader doit aussi savoir assumer ses décisions. Il arrive des fois, il prend des bonnes décisions, mais il arrivera aussi, il en prendra de moins bonnes. Mais dans tout le cas, il doit savoir assumer. Si vous ne voulez pas, vous n'aimez pas les décisions, n'aspirez pas au leadership. Le leadership, il y en a de plusieurs sortes. On peut être leader en famille, leader à l'église, leader dans la société, leader à quelques niveaux. Donc si vous n'aimez pas les décisions, n'assumez pas le leadership. Dans Marc au chapitre 3, nous en avons parlé au début de notre enseignement sur les gens, des personnes que Christ a eu à choisir. Là, nous voyons Christ prendre une décision. Marc 3, verset 13 au verset 19. Et là, c'est un choix d'homme. Souvenez-vous que nous avons dit qu'il y avait plusieurs qui les suivaient. Et dans le grand nombre qui les suivaient, il y a eu 70. Et dans les 70, il a jugé bon de former une ceinture des 12. Et comme l'avons dit au départ, ces choix supposaient prendre certains, les placer sur un niveau un peu plus élevé et les distinguer d'autres personnes. Je me relis, Jésus montant ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut. C'était son choix. Je préfère celui-ci. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna les noms de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. On est appelé en tant que responsable à décider. On dirige la chorale, plusieurs répètent, mais on ne pourra pas faire les solos à tout le monde. Il faudra placer peut-être 6. Que faire? Des fois, certains font des choix sentimentaux pour plaire à tout le monde. Bon, je vais placer même les moins bons, sinon certains vont dire, oh, aponarara rabatoué. Et ça, c'est pas un leader. Ce que je vise, c'est la performance. Ce que je vise, c'est l'édification. Que les gens crient, que les gens parlent, je placerai les meilleurs. Et je dis, si on n'est pas un bon leader, on aura difficile à faire de tels choix. Des 70, il choisit 12. Laurent va nous lire Jean chapitre 2, versets 13 à 17. Là, on voit Jésus-Christ qui prend une décision de faire mal. En tant que fils de Dieu, il a trouvé que le lieu de culte que son père a donné à son peuple, qui était censé être un lieu de prière, est devenu un lieu de commerce. Alors il veut changer les choses. Il dit, l'ordre doit revenir. La première fois, tout jeune croyant que j'ai lu ces passages, j'en revenais pas. Mais quand vous lisez les commentaires et tout ce qui s'est passé, c'est un mal qui est venu petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens venaient au temple, ils venaient pour offrir. Et la plupart des personnes amenaient leur offrande venant de la maison. Un animal, un pigeon, une tourterelle. Mais il arrivait que certains oubliaient leur offrande. Alors comme ils oubliaient leur offrande, il y a des gens qui amenaient pigeon, tourterelle, animal à la porte, à l'enclos du temple, pour aider ceux qui oubliaient à acheter. Mais petit à petit, ceux qui devaient être dehors ont commencé à avancer. Il est dit qu'ils sont allés graduellement jusqu'à être pratiquement à la porte. Et certains voulant avoir les meilleurs des clients, ils sont entrés même dedans. Les prêtres, les grands prêtres constataient cela, mais n'avaient pas le courage de sévir. Bon, laissons-les. Quelqu'un a dit, qui sait si on ne leur donnait pas des pots de vin? Yotirara, t'en noté qu'à 12 pigeons, 3 pigeons zayayo. Mais Jésus est venu la trouver cette situation qui n'allait pas. Il a pris une décision. Laurent, tu peux nous lire ça? Chapitre 2,
versets 13 à 17. Verset 13. La Pâque juive approchait et Jésus se rendit à Jérusalem. 14. Il trouva dans le parvis du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir.
J'aurais bien aimé comprendre le verset 15. Lis un peu ce verset.
Verset 15. Il prit des cordes, en fit un fouet.
Dans ma version, il dit « ayant fait un fouet avec des cordes ». J'aurais voulu voir la scène. Donc Jésus est en train de chercher, donc dans son cœur, il dit « nako beta bango vraiment ». Il est en train de chercher. Il n'a pas ramassé un fouet, il en a fait. Avec un but, faire mal pour faire revenir l'ordre. Ça, c'est le rôle d'un leader. Des fois, il faut faire comme ça. Prendre les fouets, remettre l'ordre. Laurent continue.
Et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec leurs brebis et leurs bœufs.
Et écoutez la suite.
Il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir.
J'aurais voulu vivre ça. Ma version dit, il dispersa la monnaie des changeurs. Ils ont vu comment ils jetaient. La Bible dit, il renversa les tables. Pour remettre de l'ordre. Et la suite, Laurent.
Verset 16. Puis il ordonna aux marchands de pigeons, hors d'ici avec tout cela. C'est la maison de mon père. N'en faites pas une maison de commerce.
Dans ma version, il dit une maison de trafic. Verset 17.
Verset 17. En se remémorant cet incident, les disciples se souvinrent de cette parole de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume.
Pas de leadership, sans capacité à prendre des décisions, des fois des décisions impopulaires. Jean chapitre 6, verset 14 à 15. Nous voyons aussi une décision que Jésus-Christ prend de refuser quelque chose. Jean 6, 14 à 15. Laurent, tu peux le lire en parole vivante. Moi, je lirai dans ma version.
Jean chapitre 6, verset 14.
Jusqu'à 15.
Verset 14. Lorsque tous ces gens-là se rendent compte du miracle que Jésus vient d'accomplir, ils s'écrient, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans ce monde. Verset 15. Mais Jésus, pressentant qu'il viendrait l'enlever de force pour le proclamer roi, se retire de nouveau, tout seul, plus loin dans la montagne.
Il prend une décision parce qu'il sent que lui, il a un but, il a un objectif que son père lui a donné, venir accomplir un travail, et des gens veulent le désorienter, l'amener vers autre chose, un but terrestre. Ils veulent en faire un roi, simplement parce qu'ils ont vu des choses, ils ont mangé du pain, ils disent non, non, celui-ci vraiment est le prophète. Il prend la décision et dit, là je ne peux pas rester. Jean chapitre 7, du premier verset au verset 10e, là nous voyons deux choses, deux décisions que Jésus-Christ prend. Premièrement, un refus fort, direct. Mais deuxièmement, nous voyons, apparemment, ce qu'il avait refusé, il est fait, mais il est fait à sa manière. Ça, j'aimerais lire Jean chapitre 7, du premier verset au verset 10e. Après cela, Jésus parcourait plutôt la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Je pense que maintenant nous sommes habitués à ces contenus. Et ses frères lui dirent, pars d'ici. Donc il y a une injonction. Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. N'agis pas en secret. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais tes choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi, il a de la haine vis-à-vis de moi parce que j'ai rendu le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Décision, ses frères qui l'aiment, qui ont la motivation, comme pour dire, mais qu'est-ce que la Bible qu'on va dire, Mayobé? Mimonissa, il prend la décision, il contredit ses frères, il contredit les gens. Je ne le ferai pas. Mais comme je dis, après, on a l'impression que c'est une contradiction. En fait, ce qu'il voulait dire, il dit, c'est moi qui décide. On ne m'oblige pas à faire des choses. Et non seulement que je décide, même quand je fais ce que vous prétendez, je le fais tel que moi j'aurais voulu. Non pas comme vous voulez. Écoutez la suite. Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Donc, il reste dans un premier temps. Mais écoutez le verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. Bizarre. Apparemment, comme c'est une contradiction. Mais j'aime la fin. Non publiquement, mais comme en secret. Je veux aller comme moi je veux. Il décide. Tribisaki Akende, Abouy. Marc chapitre 6. Versets 35 à 37. Là, on voit encore une décision de Jésus-Christ qui va à contrario, je puis dire entre guillemets, par rapport à une suggestion de ses collaborateurs. Oh, il est bon qu'un leader écoute ses collaborateurs. La Bible ne dit-elle pas qu'elle est saluée dans un grand nombre des conseillers. Mais n'oubliez jamais, Dieu ne demandera jamais des comptes aux collaborateurs. Dieu demandera toujours des comptes au leader, à celui qui a placé en première position. Dieu respecte les positions qu'il établit. Nous avons fait ceci parce que madame a dit, même si c'est madame qui t'a poussé, quand Dieu viendra, il ne dira pas, Ève, où es-tu? Il dira, Adam, où es-tu? Laurent, tu peux nous lire ça?
Marc, chapitre 6,
verset 35 à 37.
À 37. Verset 35. Les heures passées, le soir descendait. Ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire, « Tu sais, nous sommes ici dans un endroit désert, et il se fait bien tard. » Verset 36. « Quand je dis maintenant ces gens pour qu'ils se dispersent ça et là dans les fermes et les hameaux dans l'entour et s'achètent de quoi manger. » Verset 37. « Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. »
Tu peux t'arrêter là. Contradiction par rapport à ce que eux disent. Ce sont ses collaborateurs. Ils font une proposition réaliste, responsable, je dirais même réfléchie. Ils argumentent même le pourquoi ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Mais ils ont déjà eu à réfléchir, ils ont jeté un coup d'œil, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Christ dit non, donnez-leur vous-même à manger. Un bon leader doit savoir prendre des décisions. J'aimerais qu'on voit un peu aussi dans la vie de l'apôtre Paul cet aspect du leadership. Nous sommes dans une école de formation, nous sommes peut-être à 2 ans et quelques mois de Philadelphie. Qu'en sera-t-il dans 1 année, dans 2 ans, dans 3 ans? Certains commenceront à nous écrire, je ne sais pas moi, de Lubumbashi, d'autres de Ngandajika, d'autres de Londres, d'autres de tel endroit parce qu'ils auront une église. Et il est bon que ces principes nous puissions déjà connaître. Je parlais avec quelqu'un qui, après la réunion que nous avons eue des 3 entités, cercle de direction, comité de gestion et les partenaires, ainsi que les prédicateurs et les enseignants, qui est venu me voir à la fin et dit, mais pasteur, j'étais épaté par ton calme, par ta façon de gérer les choses, par ta capacité à synthétiser, à orienter les débats. Je lui ai dit, c'est pas venu du coup. J'ai appris cela. J'ai été intégré dans une église très jeune. En 92, je me souviens la première fois que je suis rentré dans ces comités. Je voyais faire. Je voyais comment on dirigeait les réunions. Je voyais comment on levait des options. Je voyais comment on nous donnait la parole. Comment on la retirait. Je voyais comment on corrigeait fermement, mais en mettant un peu de l'humour. Mais c'est une correction. Je voyais comment calmement on pouvait ramener quelqu'un dans la bonne direction sans les vexer. Je voyais comment petit à petit on pouvait rester dans les temps de la réunion, se passera en 2 heures, mais la façon dont les gens sont en train de parler sur un sujet, ils sont en train de déborder, avoir la fermeté, on laisse 3 personnes parler, alors qu'il y a peut-être 6 ou 7 mains. Petit à petit. Et aujourd'hui j'apprends aussi à l'appliquer. J'aimerais dire simplement, nous ne resterons pas toujours au même endroit. Dieu permettra un jour que nous allions par-ci, par-là. Vous n'avez peut-être pas l'impression. Aujourd'hui, vous êtes dans la masse. Un jour, ça sera votre tour. Ou ça sera vous qui serez les derniers remparts. Serez vous qui aurez un tout dernier mot à dire. J'en parlais avec quelques amis. Je disais, il y a quelques années, qu'est-ce que c'était paisible d'avoir le pasteur Jacques Vernon au-dessus de moi. Parce que lui et moi, on avait établi un principe. Chaque fois que je recevais une invitation, on n'adressait pas la lettre à moi personnellement, on les lui adressait. Et je peux vous assurer, j'étais protégé. Parce que 9 fois sur 10, il ne voulait pas que j'aille ailleurs. Il voulait que je reste à ses côtés pour prester. Et des fois, les amis, mais pasteur Dalotto, bien que c'est une église, n'a pas besoin de Kingabo, on a bien embadé. N'a pas la lettre à vieux. A commis non en majuscule, N-O. A tient n'a pas 3 signes d'exclamation. Tchatchan. Et puis 20 Philadelphie. Maintenant, je n'ai plus personne qui va faire des lettres. Donc maintenant, moi-même, je dois répondre. Ouyate, ouyate. Donc je dois les regarder en face et je dis non, je ne viens pas. Maintenant, je dois assumer. Papa, tu bien, c'est 9 fois. Ouyakate, il bosse à cause de la vie. Bon, ce qu'on y. T'es dans un attangoude. Ma priorité, c'est tel endroit. Je dois être d'abord à tel autre endroit, savoir prendre des décisions. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre des décisions. J'ai beaucoup aimé la prédication du pasteur Tom Saint dimanche ici en disant Dieu ne tuera pas Goliath. J'ai beaucoup aimé quand il a commencé cet équilibre qu'il a voulu montrer. Il dit, nous avons un christianisme où des fois les gens laissent tout à Dieu. Bon, nous avons aussi ces côtés humanistes qui laissent tout à l'homme. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. J'ai vu l'apôtre Paul, quelquefois il a été maladroit, mais il avait au moins une qualité, c'était un vrai leader, qui savait prendre des décisions. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 36 à 38. Je me souviens, il y a quelques jours, j'ai parlé avec un jeune homme au bureau. Je lui ai dit, vu ça, que tu as eu à faire, nous aurons réunion dans quelques jours. si tu apprends que tu es mis sous discipline, ne prie même pas que Dieu te révèle qui a proposé ça. Je te l'ai dit, c'est moi qui vais proposer ça. Qu'on te mette sous discipline minimum une année. Donc c'est moi. Je t'informe déjà, c'est la proposition que je veux amener. Tu vas peut-être pas me comprendre, mais je l'ai fait pour ton bien. Et dans le leadership, il y a des moments, c'est inévitable. Acte 15, 36 à 38. Laurent, tu peux nous lire ça?
Acte chapitre 15, verset 36 à 38. Verset 36. Après quelques temps, Paul dit à Barnabas, « Viens, nous allons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendre visite aux frères pour voir où ils en sont. » Verset 37. Barnabas fut d'accord et proposa d'emmener aussi Jean, surnommé Marc. Verset 38. Mais Paul aussi refusa net.
Catégoriquement dit une autre version.
Il estimait qu'il ne convenait pas de reprendre comme compagnon celui qui les avait quittés en plein travail à Pamphylie sans achever l'œuvre avec eux.
J'aime beaucoup la personnalité de l'apôtre Paul. Celui que Paul contredit, on peut même dire c'est son mentor. C'est son coach dans la foi. C'est celui qui l'a introduit auprès de l'Église. C'est celui, quand les autres avaient difficile à l'accepter, c'est lui qui est venu donner la caution en disant « Acceptez Paul. Il prêche franchement. » C'est celui qui a quitté Antioche, là où il y avait réveil, et qui est allé chercher Paul à Tarse pour l'amener à Antioche, de là où sont partis les voyages missionnaires. Mais quand lui, il a l'impression, parce que Jean-Marc était cousin à Barnabas, Jean-Marc se comporte pas bien, et Paul a la nette impression que le spirituel Barnabas, là, il devient un peu tribaliste. Là, c'est la fibre familiale qui travaille. Non, Barnabas n'est plus l'homme spirituel. Est-ce que ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait défendu? C'est parce que c'est Jean-Marc. Paul résiste à Barnabas. Il dit, ça c'est ma décision. Jean-Marc ne vient pas. Vous savez, quelqu'un d'autre, par respect, par reconnaissance, par dette morale, ou je ne sais, toute autre forme de sentiment, il aurait pensé des choses mais n'aurait pas exprimé. Mais là, comme j'ai dit, le côté leader qui sait décider, qui sait dire ce qu'il pense. Je suis quelquefois triste dans des réunions, des comités, dans tout autre, de trouver trop de neutres. Mais c'est ce que moi j'appelle des neutres lâches. Au fait, ils sont pas neutres. Ils veulent pas faire connaître leur position. C'est un peu comme en son temps au palais du peuple. Qui est pour? Qui est contre? On lève les doigts. Abstention. Il est ni pour, ni contre, ni abstention. Mais finalement, tu es où? Quelqu'un a dit certaines formes de vote qui se passent chez nous. Malheur, c'est que ça soit toujours à main levée, à l'hémicycle. Si on pouvait donner quelque autre mode, certains qui lèvent les noms pour dire oui, c'est le nom qui est dans le cœur. Mais ceux qui n'ont pas lutté, Mais Paul, il sait prendre des décisions. Barnabas, moi je suis pas d'accord. Jean-Marc ne vient pas. C'est pas un rendement de compte, mais Paul a un côté pédagogique. Et nous en avons souvent parlé ici, plus tard ses rapports avec Jean-Marc seront arrangés. Lisez aussi avec moi Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 18 à 22. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant rentré dans les synagogues, il s'entretint avec les Juifs, qui les prièrent de prolonger son séjour. Mais j'aime le verset 21. Mais il n'y consentit point et prit congé d'eux en disant, il faut absolument, j'aime ça, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit à Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Laurent, tu peux nous lire dans Parole Vivante juste le verset 21.
Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 21. Il les quitta en leur promettant, « Je reviendrai à Éphèse vous voir une autre fois, s'il plaît à Dieu. » Il repartit donc d'Éphèse.
Amen. Il n'y consentit point. La Bible dit, il est prière de prolonger son séjour. Frère Paul, tikalagaka. Frère Paul, ozo lendi sabiso. Frère Paul, ozo salabiso bien. Il a un agenda. Voilà ce que je compte faire. Ah, Paul, ozo sabiso motema. Nengo boy. Je reviendrai si Dieu le veut. Actes des Apôtres, chapitre 21. Verset 10 à 14. La Bible dit, « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. » En plus, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Et ça, c'est maintenant Luc qui parle. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, écoutez la suite, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Laurent, qu'est-ce que la version Parole Vivante dit?
Actes des Apôtres, chapitre...
Verset 12, simplement.
Verset 12. Quand nous avons entendu cette déclaration, nous avons supplié Paul.
Supplié même, il est dit.
De concert avec les gens de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem.
Verset 13, chez moi. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et me brisant les cœurs? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Verset 14, « Comme il ne se laissa pas persuader. » J'aime ça. Nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. Laurent, tu peux nous lire 13 et 14.
Verset 13, « Mais il nous répondit, « Pourquoi ces larmes? Vous m'effendez le cœur. Vous voulez me décourager. » Vous savez bien que je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Mmh. Verset 14. Comme il n'y avait pas moyen de le faire changer d'avis.
Wow. Comme il n'y avait pas moyen de le faire changer d'avis. C'est-à-dire, ils ont tout essayé. Ils ont trouvé un homme décidé.
Comme il n'y avait pas moyen de le faire changer d'avis, nous avons compris qu'il était inutile d'insister et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite et que son plan s'accomplisse.
Amen. C'est juste un problème d'interprétation. Et quand ces messages sont sortis, ils ont interprété que cela voulait dire qu'il n'aille pas. Mais lui, il comprenait autrement. Et il est resté sur sa position. Nous reparlerons de ça encore sur les Actes des Apôtres, chapitre 25, verset 8 jusqu'au verset 12. De quoi est-il question? L'apôtre Paul est détenu 2 ans à Césarée et puis le comparé devant le gouverneur Festus. Et là, quelque chose se passe. Paul entreprit sa défense en disant, « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre les temples, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que j'ai comparé. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. » Il dit, « J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec les conseils, répondit, « Tu en as appelé à César. Tu iras devant César. » Il décide, il dit, voilà ce que moi je décide. Vous me proposez Jérusalem, moi je dis Rome. Mais celui devant qui il se trouve, c'est un suzerain, quelqu'un qui a des grandes responsabilités. Voyons aussi l'exemple d'Abraham, un homme qui sait prendre des décisions. Genèse chapitre 13, du 5e verset au verset 9, je veux lire. Lot qui voyageait avec Abram avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans les pays. J'aime les deux versets qui vont suivre. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Waouh! Il fait la proposition. Sépare-toi donc de moi. Ça, j'aime. Il a constaté qu'il y a un problème. Il dit, ce problème ne doit pas perdurer. Il faut trouver une solution. Et Abraham comprend que la solution est dans la séparation. Il prend le courage d'inviter son neveu. Il dit, depuis quelques jours, toi et moi, on ne parle pas, mais il y a un problème. Et la solution de ce problème, c'est la séparation. On a toujours été ensemble. Je t'ai recueilli, tu étais tout petit. Mais nous devons décider. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il lève une option. Il décide. Je l'ai dit une fois ici, il arrive des fois nous prions là où nous ne devons plus prier. Il y a des moments où nous devons prier, mais après avoir prié, il arrive des fois nous confions à Dieu ce pourquoi nous devons nous-mêmes faire certaines choses. Nzambe yomoko simba mote malot. Soka okende akende. Nzambe soki ngana lobisi na ipsi ke to kabwana. Akoloba noko hein. Ah papa kulutu hein. Il affronte. Sépare-toi de moi. On ne doit plus continuer à rester ensemble. Que des gens comme leader qui ne savent pas prendre des décisions. Nous l'avons lu la fois dernière, j'aimerais qu'on relise encore Hébreux chapitre 11, verset 24 et verset 27. Laurent va nous lire ça. Hébreux 11, verset 24 et verset 27.
Hébreux chapitre 11, 24 et 27. Verset 24. Poussé par cette même foi, Moïse lui-même, une fois devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. 27. Fortifié par sa foi, il a bravé la fureur du roi et a quitté l'Égypte aussi intrépide et ferme que s'il avait vu de ses yeux les dieux invisibles.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Une décision. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et j'aime la fin, car il se montra ferme. J'aimerais qu'on lise aussi Exode chapitre 32, verset 25 à 28. Je lisais ça tout à l'heure au bureau, en début d'après-midi, j'ai dit, waouh, Moïse, il était fort, ce gars. Exode 32, 25 à 28. Laurent, tu peux nous lire ça?
Exode chapitre 32, verset 25 à 28. Verset 25. Moïse vit que le peuple était déchaîné. Aaron l'avait laissé faire. De sorte qu'il s'exposait au mépris de ses ennemis. Verset 26. Alors il s'est posté. Tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi.
Wow.
Tous les membres de la tribu de Lévi se rallièrent à lui. Verset 27. Il leur dit, voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, parcourez tous les camps, allez d'une tente à l'autre, que chacun tue au besoin son frère, son ami, son proche. Verset 28. Les Lévites obéirent à Moïse de sorte que ces jours-là, environ 3000 hommes du peuple perdirent la vie.
On a fabriqué les veaux d'or, il y a eu un mélange. Moïse sent qu'il faut faire revenir l'ordre. Et il lève une option. Quelle option? Quand il lève cette option, il sait qu'à la fin, il y aura des cadavres. Mais il dit, c'est ce qu'il faut faire pour faire revenir les choses sur le chemin. L'une des choses qui nous tue dans notre pays, dans nos nations, surtout en Afrique, c'est l'impunité. Il y a une loi, il y a des principes. Mais en effet, rien du tout. Josué chapitre 7, versets 24 à 26. Nous voyons l'exemple du grand général qui conduit le peuple de Dieu. Et ils sont à un tournant. À cause d'un homme, le peuple a connu une grande défaite devant la ville des Haï. Et puis ils sont allés par plusieurs méthodes et les fautifs a été trouvé. Écoutez ce que le verset 24 et 25 dit. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, tout ce qu'il avait comme âne, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Verset 25, Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout le peuple les lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Waouh ! Un leader irresponsable. Papa Limbisaye Kaka. Papa Kangaka Mutema. Josué connaît combien l'impunité peut amener toutes sortes de choses, et même Dieu sait ça, et il dit, il faut faire quelque chose. En matière de décision, en général, il y a trois options. Premièrement, il y a des décisions à prendre qui exigent du temps. C'est-à-dire la réflexion, la collecte des informations, qui aide à une bonne décision. Il y a des décisions comme ça qui demandent que l'on puisse prendre du temps. Temps pour la réflexion, temps pour la collecte des informations. C'est pourquoi quelquefois ne soyons pas prompts à lever les options. J'aimerais que Laurent nous aide à lire de l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, du 1er au 6e verset. Je vais lire dans ma version, tu liras aussi dans ta version. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné et lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Ils sont prêts déjà à aller dans une direction pour l'application. Le verset 6 dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus prend le temps. Comment il prend le temps ? La fin du verset dit, mais Jésus s'étant baissé, écriva avec les doigts sur la terre. Tant de réflexions. Temple et des prières. Tata yo notinanga na mabele. Sikunenge bato baloyi bona sala nini? Na baba bamba ima banga to babambale. Réflexion. Il réagit pas spontanément. Combien de fois des gens nous poussent à la promptitude alors qu'il y a certaines choses qui exigent la réflexion. Non, l'obélara oui ou non. Non. Laurent, lis dans ta version, s'il te plaît.
Jean chapitre 8, versets 3 à 5. Verset 3. Les interprètes de la loi et les pharisiens traînent devant lui une femme surprise en train de tromper son mari. Ils la font avancer dans la foule et la placent bien en vue au milieu du cercle devant Jésus. Verset 4. Maître, lui disent-ils, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. 5. Or, dans la loi de Moïse, nous avons... Moïse nous a ordonné de tuer à coups de pierre ces sortes de personnes-là. Quel est ton avis à toi là-dessus? 6. Et lui poser cette question piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Pour toute réponse, Jésus s'abaisse et se met à écrire par terre avec son doigt.
Comme je disais, il prenait le temps de réfléchir, d'être en communion avec son Père, de collecter une quantité suffisante d'informations. J'ai vu dans mon parcours, par expérience avec Dieu, dans la marche avec Dieu, des fois les bonnes décisions sont attachées à la collecte, à la fois et de la quantité et de la qualité d'informations. Quand vous avez une quantité suffisante et une qualité suffisante, vous prenez de bonnes décisions. Deuxième chose, il y a des décisions pour lesquelles quelquefois nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition. Où il faut réagir vite et des fois très vite. Et même j'irai plus loin. Le succès dans la décision réside dans la rapidité avec laquelle on la prend. Tu traînes, les pires peuvent arriver. Il y a des décisions qui exigent des fois qu'on agisse promptement. Il ne faut pas traîner. J'ai relaté cette histoire ici. Je pense que c'était en 93. Notre fille aînée avait fait rentrer, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en lingala on dit mayaka. En français, on dit quoi? Perle par l'oreille. Et c'était rentré là-dedans, ça avait commencé à faire une sorte d'infection. Commencé à se plaindre de maux de tête. On a dû l'amener en Galéma. Et comme elle était toute petite, on a dû lui faire une anesthésie pour essayer d'enlever ça. Mais alors qu'on était en train d'attendre là, j'ai vu un monsieur qui faisait les 100 pas. On venait d'amener sa femme rapidement. Elle était enceinte, presque à terme. Il semble qu'ils avaient attendu 6 ans sans avoir d'enfant. Une grossesse qui s'est passée bien. Et puis, subitement, c'est ce que les médecins appellent une grossesse précieuse, un enfant précieux. Et je le vois, on est sorti. Monsieur, nous vous donnons 5 minutes parce qu'on se rend compte qu'on ne peut sauver et l'enfant et la femme. Il nous faut nous concentrer sur l'un des deux. C'est à toi de dire, parce que chaque minute de perdu, nous pouvons les perdre les deux. Ce jour-là, j'étais content. Permettez-moi l'égoïsme d'être Roland Dallon, de ne pas être cet homme. J'ai dit, waouh, dans la vie, des fois, c'est dur. Et plus il traînait, plus, hey, monsieur, fais vite! C'est pour ça que je disais, il y a certaines décisions, le succès dépend de la promptitude avec laquelle on réagit. Que des fois nous passons le temps alors que c'est quelque chose pour laquelle on doit décider vite. Il est possible avec Dieu de décider vite, mais bien aussi. Si on est attaché à Dieu, parce que la Bible dit, ceux qui craignent l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Décider vite n'est pas toujours mal décidé. Il y a possibilité de décider vite et bien. Nous voyons un exemple dans la parole de Dieu, 2 Samuel chapitre 15. Du 13e au 14e verset. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. C'est-à-dire, Absalom et les gens en rébellion sont en train de venir. David, chaque minute de perdu, tu vas retrouver ta tête coupée. Écoutez le verset 14. David dit à tous ces hommes qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. » Et j'aime ce qu'il ajoute encore. « Hâtez-vous de partir. » Laurent, j'aimerais que tu lises dans ta version tout à l'heure. « Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre. Il nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Laurent va nous lire tout à l'heure, mais ça me rappelle une vieille histoire, j'en ai fait mention une fois ici. Nous étions à une réunion de l'Assemblée Générale des Assemblées de Dieu ici à Kassavubu, au siège de notre communauté. Et chaque fois que nous avons l'Assemblée Générale, les plénières vont de 9h jusqu'à 15h. À 15h en général, c'est la bouffe. On prépare beaucoup de choses. Les gens mangent avant de rentrer. Mais il y a des pasteurs pour lesquels la bouffe est sacrée. il partirait pas sans avoir mangé. J'ai toujours souvenir 91, je pense, ou 93, je sais pas si c'était le premier ou le second pillage. On tendait vers 14h, 14h15. On veut lui dire, non, les balles sifflent. Laissez la nourriture rentrer. La plupart de ses papas, mais ça nous a dans la ville. Certains d'entre nous, nous sommes partis sans avoir mangé. Bien, on avait payé pour les repas. Ceux qui sont restés pour manger, ils ont mangé ces repas, mais ils sont restés 4 jours. Nous qui avons décidé vite et bien, nous avons raté ces repas, mais nous avons sécurisé les repas de la maison. Eux pour qui il ne fallait pas perdre ces repas, ils ont eu ces repas, mais ils n'ont plus bougé. Ils sont restés là. David dit, hâtez-vous de partir. Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Laurent, tu peux nous lire ça? Il est possible avec Dieu, quelquefois, de choisir bien et vite aussi.
2 Samuel, chapitre 15, versets 13 à 15. Verset 13, on vint annoncer à David que les Israélites prenaient parti pour Absalom. Verset 14, alors David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, « Allons, fuyons au plus vite, sans quoi personne n'échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon nous prendrons de vitesse et nous rattrapera, il nous prendra de vitesse. »
Ça, c'est encore mieux dit, il nous prendra de vitesse et il nous rattrapera, termine.
Il nous précipitera alors dans les malheurs et massacrera toute la population de la ville. Verset 15, les ministres lui disent...
Tu peux t'arrêter là, merci. Troisième option, il y a aussi des moments où la meilleure décision à prendre, c'est de ne rien décider. Bizarre, n'est-ce pas? Il y a des moments où la meilleure des choses à faire... c'est de ne rien décider. Il y a des moments où la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. C'est la meilleure des choses à faire, ne rien faire. Ou du moins, ne rien faire dans l'immédiat. Ne rien faire avec précipitation. J'aime Jésus, la manière dont il gérait les choses. J'aimerais qu'on lise ces deux textes. J'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des décisions et des pressions. Jean chapitre 2. Laurent va nous lire du premier verset au verset 5.
Jean chapitre 2, verset 1 à 5. Verset 1. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Verset 2. Et Jésus aussi fut invité au mariage avec ses disciples. 3. Or voilà que, tout à coup, la provision de vin est épuisée. La mère de Jésus lui fait remarquer, ils n'ont plus de vin. Verset 4. Écoute, lui, répond Jésus. En quoi cela nous concerne-t-il? Que me demandes-tu? Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, si Jésus vous demande quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira.
Pour Marie et pour ceux de la fête, il faut faire quelque chose vite. Il faut le faire maintenant. Le moment où ils s'y mettent, le moment de l'action, Jésus-Christ dit, je ne fais rien. Plus tard, on les voit en action. Mais inactifs un moment. On voit le même principe se retrouver dans la vie du maître dans Jean chapitre 11. On lui amène un message pressant, mais il ne bouge point. Jean 11, 1 à 6. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, au village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfums le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celle que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. J'aime le verset 6. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était inactif. Je vis en travaillant à côté de mon pasteur combien de fois certains problèmes, les gens voulaient pousser à des solutions rapides et des fois le fait de ne rien faire à solutionner des problèmes de soi-même. La grande question que l'on peut se poser, comment arriver à distinguer toutes ces choses? Comment arriver à distinguer quand est-ce qu'il faut aller rapidement, quand est-ce qu'il faut réfléchir et quand est-ce qu'il faut rien faire? Là, nous avons besoin d'un soubassement important, la sagesse. Et l'année qui va commencer, 2011, nous parlerons beaucoup de cet ingrédient principal dans notre vie et dans notre marche avec Dieu. Appelé la sagesse. Et la sagesse, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui nous dit maintenant, fais ceci. Maintenant, ne fais pas. À telle occasion, réagis promptement. À telle autre occasion, ne fais rien du tout. Mais je veux ouvrir une parenthèse que je fermerai tout à l'heure avant de clore. C'est que tout leader doit savoir qu'il subira des pressions externes pour prendre des décisions. Il vient un moment où il y a des pressions. Si vous êtes un mari, vous subirez des pressions de votre femme. Si vous êtes une femme, vous subirez des pressions de votre mari. Si vous êtes un leader, vous subirez des pressions des croyants. Vous êtes un responsable à quelque niveau, vous subirez des pressions de la part de ceux qui dépendent de vous. Si vous êtes appelé à exercer un rôle de leadership, que vous le vouliez ou non, un jour ou l'autre, vous serez en contact avec la pression. Mais j'insiste, quelles que soient les pressions que vous subissez, Dieu demande toujours les comptes à celui qui l'a placé. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 23. Laurent va nous lire ça. Nous voyons la pression des disciples qui pousse Jésus à faire quelque chose.
Matthieu chapitre 15, versets 21 à 23. Verset 21. En quittant cet endroit, Jésus s'est rendu dans la région des Tyr des Sidon. Verset 22. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait cette région sortit de chez elle et s'est mise à crier. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. J'ai une fille qui souffre horriblement parce qu'un démon la tourmente. Verset 23. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Finalement, ses disciples intervinrent et lui demandèrent avec instance, accorde-lui donc ce qu'elle te demande, car elle ne cesse de nous suivre et nous fatigue avec ses cris.
Verset 23 dit, il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance, renvoie-la. Proposition. Les assistants, les pasteurs stagiaires, proposent au pasteur titulaire, Benganaye. Les pressions nous allons subir. La Bible nous montre les personnes qui ont eu à commettre des erreurs monumentales en tant que leader parce qu'ils n'ont pas su gérer la pression. Exode chapitre 32, versets 1 à 4 et puis 21 à 23. Laurent, tu peux nous lire ça. Ça, c'est un modèle. Souvent, j'ai lu, j'ai étudié, j'ai dit, Seigneur, épargne-moi d'avoir la personnalité d'Aaron. Aaron, c'était un lâche. Il n'avait pas le courage de dire non. Moïse est monté sur la montagne depuis plusieurs jours. Il est à la rencontre de Dieu depuis 40 jours et 40 nuits. Et lui, il est resté avec le peuple. Le peuple est dans la lassitude. Et lui qui est resté, comme on peut dire, celui qui, comment on dit en termes administratifs, intérimaire, voilà, merci. Comme disait quelqu'un, il arrive des fois, on envie un poste, mais on ne connaît pas les réalités du poste. Laurent, lis-nous ça.
Exode chapitre 32, versets 1 à 4, 21 à 24. Verset 1. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous.
Wow.
Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. »
Moïse devient cet homme, c'est plus leur leader.
Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Verset 2.
Aaron, pourquoi tu ne dis pas non? On ne peut pas faire ça. On attendra Moïse. Aaron fit quoi?
Aaron leur répondit. Détachez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Verset 3. Aussitôt, tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Verset 4. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria. Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte.
Vas-y, verset 21 à 23.
Verset 21. Ensuite, il demanda à Aaron, que t'as donc fait ce peuple pour que tu l'entraînes à se rendre coupable d'un si grand péché?
J'aime beaucoup ce qui est dit dans ma version. Que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? C'est-à-dire, tu avais la capacité de l'arrêter. Moïse veut dire, si c'est arrivé, tu as une responsabilité. Laurent continue.
Verset
écoutez 20. La réponse d'Aaron.
Verset 21 toujours. Pardon,
22.
22. Alors, Aaron répondit, que mon Seigneur ne se fâche pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté à faire le mal.
Verset
23. Ils m'ont dit, fabrique-nous un Dieu qui marche devant
mais
nous.
Est-ce qu'ils ont mis un revolver à ta tente, Aaron? Papa Yomoro et peuple, on a souvent dit au ganga. Au bout, il a bangoumé.
Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Verset 24. Je leur ai donc répondu que ceux qui ont de l'or s'en dessaisissent. Ils m'en ont remis. Je les ai fait fondre au feu. Et voilà les veaux qui en est sorti.
Merci beaucoup. 1 Samuel chapitre 13, versets 11 à 12. Nous parle aussi de quelqu'un qui a perdu la royauté, rejeté, parce qu'il n'a pas su aussi gérer la pression. Il aurait dû attendre que l'homme de Dieu vienne, prie pour l'élite d'Israël avant qu'ils aillent sur les champs de bataille. La Bible déclare, en Samuel 13, versets 11 à 12, Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Il lui dira, « Tu as agi en insensé. » Si vous lisez les contextes, le peuple poussait. Est-ce que Samuel en a? J'en ai parlé ici une fois. S'il y a une phrase qui m'a toujours touché dans cette histoire, c'est le verset 8 au verset 10. La Bible dit, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'Holocauste. J'ai toujours lu le verset 10 avec tristesse. La Bible dit, comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel. Comme qui dirait, s'il avait juste attendu un peu. Donc, à Silisikagabori, Samuel a bimé. C'est pour cela que j'ai dit, il y a des moments où la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. De ne pas bouger d'un cran. Et si nous disons la suite, il perd la royauté. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermé pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Une mauvaise décision. Prise à cause de la précipitation. Il a su attendre, mais il n'a pas su attendre suffisamment. J'aimerais en terminant parler de trois choses qui sont attachées à celles que je viens de citer. Trois grands pièges en matière de décision. Trois grands pièges en matière de décision. Trois grands pièges en matière de décision. Le premier piège, c'est la lenteur. La lenteur. Ou prendre trop de temps. Comme je l'ai dit, il y a des décisions qui, quelquefois, qui exigent la promptitude. Trop long. On va prendre une décision dans Juge. Chapitre 5, versets 15 à 16. Laurent, tu peux nous lire ça. Israël est attaqué par ses voisins. Et comme l'époque dit que le peuple était sans force, une femme s'élève, Déborah. Juge 5, versets 15 à 16. Et Déborah sait que les dangers sont devant le pays. Il doit y avoir une mobilisation complète, totale, mais aussi rapide. Elle envoie un message à toutes les tribus. Venez rapidement pour que nous relevions les défis. Qu'est-ce qui est dit de ces deux tribus, versets 15 et 16?
Verset 15. Les princes d'Issacar ont rejoint Déborah et toute sa tribu sur les pas de Barak s'est précipitée dans la plaine. Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin.
Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Dans ta version, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont fait quoi?
Verset 15. Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin.
Délibéré, discuté sans fin. Tout qu'un délai. Un parlement. Débat. On se dit qu'il était là-bas conséquent. On se dit qu'il était. Papa, est-ce qu'à ce moment, les Philistins attendent? Déborah attend qu'il y ait une mobilisation. Le verset suivant dit quoi, Laurent, verset 16?
Verset 16. Pourquoi es-tu resté au milieu des enclos, écoutant bêler les troupeaux dans les rangs de Ruben? On a délibéré et discuté sans fin.
Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter les bêlements des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Les gens sont restés en train de réfléchir. Est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait pas? Mais écoutez, par exemple, le verset 14. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. Des Makir vers des chefs et des Zabulon des commandants. Là, on parle de ceux qui ont répondu promptement. Verset 15. Les princes d'Issacar furent avec Déborah. Et Issacar suivit Barak. Spontanément, ils se sont levés. 18. Zabulon était un peuple qui affronta la mort. Et Nephtali de même. Promptitude dans la réponse. Mais Ruben, lui, délibération sans fin. Le deuxième piège, c'est la précipitation. Parler de précipitation, c'est parler d'une forme de hâte, mais extrême et exagérée. En général, la précipitation est toujours attachée à un manque de réflexion. À un manque de profondeur. La Bible nous parle de la mauvaise option laissée par Josué, levée plutôt par Josué, qui s'est laissé abuser par les Gabaonites. Simplement, il a levé une option avec précipitation. Il a vu des gens venir donnant l'impression, nous lisons cela dans Josué chapitre 9, nous n'allons pas lire, du premier verset jusqu'au verset 27e. Précipitation. Pas de réflexion. Pas les temps de voir. Les gens ont présenté un extérieur et directement, il a levé l'option. J'aimerais qu'on note ces trois passages que nous allons lire avant de toucher le dernier point et clore. Acte 19, verset 36. Acte 19, 36. 1 Timothée 5, verset 22. Proverbe 21, verset 5. Que les jeunes gens, dont certains même dans l'œuvre de Dieu, arrivent à avoir des problèmes de témoignage simplement parce qu'ils vont avec précipitation. Pourquoi ne pas observer cette sœur de loin? Pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas collecter des informations? Et finalement, on est convaincu. On avance peut-être une amitié. Et finalement, on vient dire, je t'aime, je pense qu'on peut avancer. Que des gens qui sont venus, Dieu m'a dit. Et trois mois après, tu découvres que celle pour qui Dieu t'a dit, elle est colérique. Oh, Soribo est ici là. Alors, Dieu n'a plus dit. Dieu a changé d'avis. J'ai posé un jour la question à un jeune homme comme ça. Il me dit, non, pasteur, il y a des visions qui peuvent suivre des révisions. Il y a des gens qui ont des réponses. Simplement parce qu'on est allé dans la précipitation. J'ai connu des amis dans l'œuvre de Dieu. Ils ont tellement tâtonné dans le choix. Et leur responsable a crié sur eux. Il a dit, les jours où j'entendrai encore que vous avez tâtonné parce que chacun d'eux avait 5 à 6 cœurs de jeunes filles froissés sur les chemins. Les deux se sont réunis comme dans un duo. Ils ont dit, Ngao, na zoarekamane zoya. Na bali karafama. Na boi vu à gang la bisou lissos. Les deux aujourd'hui sont divorcés. Mal marié, précipitation. Celle que je vais rencontrer, vous savez, on ne se marie pas au brouillon. Et puis on vient le faire au propre après. Pas de précipitation. Laurent, on va lire ces trois passages. Je vais lire Acte 19, 36. Tu liras 1 Timothée 5, verset 22. Et puis je reviendrai pour lire Proverbe 21, 5. Acte 19, verset 36, la Bible dit ceci. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer. J'aimerais que tu nous aides aussi à lire ça dans la version Parole Vivante. Et ne rien faire avec précipitation. Calmez-vous. Ne rien faire avec précipitation. J'ai vu des jeunes gens lever des options de se marier parce qu'ils ont assisté à un mariage. En général, des décisions se prennent. Hein? Oui, mariage, n'est-ce pas, kingotolo. Ngaya, vril, il faut naquende. On s'en a mouton dans la mouton, papa. Oh là, on coûte un égard. Jésus, Jésus. On rentrera avec des dents et tu commenceras à regretter. Il vaut se marier tard et bien que tôt et mal. Mais si on peut se marier à temps et bien, pourquoi pas? C'est possible avec Dieu. Laurent, tu peux nous lire ça?
Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 36.
Parce que quelqu'un a dit, les mariages sont comme un bateau pour certains. Ceux qui sont dehors veulent y entrer. Certains qui sont dedans veulent. Comme un frère est venu me voir un jour au bureau, il dit, pasteur, gana zelaram kolonzamba ou tolérer polygamie. Si on a pour nous trois, je vous en ai dit, mais la polygamie, il m'a dit, pas! Je vais dire aux élèves, Donc, déçu par son choix. Laurent, lis-nous dans ta version.
Actes des Apôtres, 19, 36. Verset 36. C'est là un fait incontestable. Il faut donc vous calmer et garder votre sang-froid. Ne faites rien d'irréfléchi. N'agissez pas avec précipitation.
Ne faites rien avec précipitation. Laurent, lis-nous dans ta version 1 Timothée 5, 22. Et moi, Timothée, je vous lis Proverbe 21.
5, verset 22.
5, 22.
Ne te décide pas trop vite à imposer les mains à quelqu'un. N'agis jamais à la légère ou dans la précipitation.
Aïe, 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 là, c'est un verset adressé à nous, hein.
Tu risquerais de te solidariser avec les torts d'autrui.
Roland, tu entends?
Et de te trouver impliqué dans la responsabilité des manquements futurs. Ne te rends donc pas complice des péchés d'un autre. Garde tes mains nettes. Conserve-toi entièrement pur en toutes choses.
Pasteur Ngalazan et Loko Nzambe. Nkoloa Bengangai. Pasteur Ken Otangiango. Papa Véran, Totangiango. Laurent, relis-nous dans cette version, elle est tellement bonne. Pas de précipitation dans l'imposition des mains. N'impose les mains à personne avec précipitation. C'est pas parce qu'il a parlé en langue 2-3 fois. C'est pas parce qu'il a donné 4 paroles de connaissance avec exactitude. Relis, s'il te plaît.
Ne te décide pas trop vite à imposer les mains à quelqu'un. N'agis jamais à la légère ou dans la précipitation. Tu risquerais de te solidariser avec les torts d'autrui et de te trouver impliqué dans la responsabilité de ces manquements futurs. Ne te rends donc pas complice des péchés d'un autre. Garde tes mains nettes. Conserve-toi entièrement pur en toutes choses.
Amen. Proverbe 21, verset 5. Et ça, je dis ceci. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Le troisième et dernier piège à éviter, c'est l'indécision. L'indécision. C'est-à-dire le manque de décision. L'indécision est différente de la lenteur. L'indécision, c'est la difficulté à trancher ou à faire des choix. L'indécision est caractérisée par les doutes et l'hésitation. Je disais, c'est différent de la lenteur. Dans la lenteur, on décide, mais on y va en prenant beaucoup de temps. Dans l'indécision, on est en train de tanguer. On va à gauche, on va à droite. On a difficile à trancher. Et je disais, l'indécision est caractérisée par les doutes, l'hésitation, mais surtout les changements d'options. Ah, pasteur. Je vais battre entre ma soeur, voilà, la chorale, là, pour l'anani. Mansanga. Sur le critère spirituel, Mansanga. Mais pasteur, Mansoto, Mambouéni, c'est quoi? Sur la croix, tout le monde va mélanger Mansanga dans Mambouéni, là vous allez bien. Mais il faut choisir entre Mansanga et. Quand tu es avec Mansanga, sa spiritualité te touche, vous êtes là. Ah! Alors tu hésites, tu dis non, qu'est-ce que m'embouine? Ou qu'est-ce que m'embouine? T'as la démarche. Tant que vous fanez naïe boy, aïe 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 aïe. Mon souvenir, le kimingi kappa. Bible a yébité. Matsanga soubou tanganabi, j'ai lu dans Habakkuk. J'ai compris la profondeur de Sophonie. Mais m'embouine soubou soigné. Et comment est-ce qu'il voit, puis c'est quand il y a un peu de temps. Ou comme il y a une décision. Y a-t-il un indécis ce soir ici? Dans Psaume 119, verset 113, le psalmiste dit quelque chose de profond. Le psalmiste dit ceci, Psaume 119, verset 113. Il dit, je n'aime pas les indécis. Dans d'autres versions, il a même utilisé un terme fort, la haine. Je hais les indécis. Quelqu'un a un autre verbe utilisé? Vas-y Laurent, chez toi, il a dit quoi?
Psaume 119, verset 113. Je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime.
J'ai hais les indécis. Quelqu'un a un autre verbe dans sa version? Qu'est-ce qu'il a dit là? Je hais la duplicité de ceux qui sont doubles. Je déteste les indécis. Quelqu'un a un autre verbe utilisé? Oui, Adelin? Voilà. Il dit, je déteste les cœurs partagés. Y a-t-il un cœur partagé ce soir? À 10 heures, il est convaincu. Et ça m'entend. À 10h30, m'amboué. 11h, remansanga. 11h30, remambouine. Dans aucun des gagabouine. J'ai vu des gens comme ça. Il va jusqu'à prédoter. Oh, pasteur, maintenant la prédota, boulingue bima. Ah! Bon, écoute, rangengeni. Mon abattu, mais mioti. Et c'est la famille. Je hais les indécis. Jacques 1, verset 8, l'apôtre va dans la même direction. Seigneur, aide-moi à ne pas être indécis. Les indécis perdent du temps et 9 fois sur 10, ils arrivent toujours à faire les mauvais choix. À un moment, c'est vrai, la Bible dit les salut dans un grand nombre de conseillers. Ils hésitent tellement qu'ils veulent se confier en quelqu'un d'autre. Les indécis, ils nous mettent quelquefois à la place de Dieu. Pasteur, nous avons hésité. Nzamba lobinini. Papa, ngana avons dit que nzamba lobitango yoko simbate. Oh, pasteur, nous avons dit que nous avons est venu me dire nzamba lobinini. Je lui dis, Nzamba, yebisinga sa, yebisaki yo. Message à Pesinga Yangwan. Jacques 1, 8.
Jacques, chapitre 1, verset 8. C'est un indécis au cœur partagé, instable dans sa conduite.
Waouh.
Il sera inconstant dans toutes ses entreprises.
C'est un homme irrésolu. Inconstant dans toutes ses voies. Adeline, ta version est tellement bonne, peut-être qu'elle dit autre chose. Jacques 1, son 8e verset. Le verset 8. Voilà, fluctuant dans toutes ces démarches. Il y a des gens qui sont sans position. L'autre lui a madesso. T'es la moins de changer. Tout le monde a dit, tout le monde a tembelé. Tu ça, bizo, bizo. Mon pasteur, quand il prêchait un jour sur les conflits conjugaux, il disait, si dans un couple les deux sont d'accord sur tout, c'est qu'il n'y a qu'un seul qui s'exprime. Si à un moment les deux sont d'accord sur tout, c'est qu'il n'y a qu'un seul, tout le monde tous les changements, tu y vas. Quelqu'un qui a une décision, on va dire, ah non, t'es, misilité. Misilité, trop bien wando. Un roi 18 termine par ce verset. Un roi 18, verset 20 à 21. La Bible dit: Akab envoie des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Une autre version dit: Jusqu'à quand allez-vous tanguer de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Mais écoutez la réaction. Le peuple ne lui répondit, indécis. Si c'est Jéhovah, allez vers Jéhovah. Si c'est Baal, allez vers Baal. Il ne lui répondit rien du tout. Indécis au sortir de leur goal secondaire. Quelle option choisir à l'université? Il y a des gens qui gaspillent leur temps. Ils pensent que la vie, on la vit au brouillon. Les jeunes gens qui ont 18, 20 ans, ils ont l'impression qu'ils ont toute la vie. En premier grade depuis 5 ans, avec plusieurs facultés. Simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à choisir. Médecine, et puis après médecine, ça n'a pas marché. Math info, ça n'a pas marché. ISC, ça n'a pas marché. Oh, toqué iphasique. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Oh, Mikolo, allez, tu es en troisième graduat de droit. Quelle option de droit choisir? Matin, droit économique. À midi, droit public international. Le soir, voilà en train d'étanguer. Indécis. Ministère ou pas ministère? Appel de Dieu ou pas appel de Dieu? J'aimerais nous inviter ce soir à baisser nos têtes dans la prière. Je lance deux appels et j'aimerais inviter deux frères, notre jeune frère Amos, Makanda, il va s'avancer, et papa Faustin Malou, ils vont s'avancer. Ils prieront pour nous tout à l'heure, avant que nous puissions récolter dîmes et offrandes. Quand je priais très tôt ce matin, et même encore en ce début d'après-midi, j'ai eu la ferme conviction qu'au-delà de son aspect pratique, ce message est une interpellation pour quelqu'un. Il y a ce soir un indécis. Il y a ce soir une indécise. Il y a ce soir quelqu'un qui doit lever les grandes options de sa vie, mais qui est, comme Jacques 1:8 dit, changeant. Il y a ce soir ici quelqu'un qui doit répondre à l'appel au ministère, dire oui. Quels que soient les candidats, quel que soit tout ce qu'il peut y avoir, quel temps tu gagnerais en allant vers Dieu. Mais il y a quelqu'un d'autre, malgré cet appel, Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout dans cette formation séculière que tu es en train de faire. Parce qu'il sait qu'un jour cette formation aura de l'impact dans ton ministère. Il y a une jeune fille ce soir qui est en train de lutter entre deux propositions. Une autre même en a plusieurs. Des garçons qui s'intéressent. Elle sait qu'elle doit choisir. Elle sait qu'elle doit lever l'option. Elle sait qu'elle doit fermer une porte pour laisser qu'une autre s'ouvre. Et à ce soir ici, un jeune homme appelé au ministère et qui a conscience que la réussite, les succès dans le ministère sont attachés au choix de la personne qui et appela à les accompagner. Tu rigolais quand je parlais d'un côté le spirituel et de l'autre côté le physique, mais au fond de toi, tu savais que c'est la lutte que tu connais. Le psalmiste dit, j'aime pas les indécis. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, pasteur, avec les serviteurs de Dieu qui sont devant, je reconnais que je suis indécis, indécis. J'ai besoin que Dieu m'aide. Je veux lever les options, les bonnes. Quelqu'un ce soir ici doit lever une option. De s'installer en un endroit ou dans un autre. Rester au pays ou aller ailleurs. Aller ailleurs ou rester au pays. Quelqu'un ce soir ici est en train de se battre avec des choses à faire. Une formation à faire, une étude à faire, une conviction de retourner à l'école, de retourner à l'université. Et le dernier appel que je lance, quelqu'un ici ce soir a besoin de prière parce qu'il ne sait pas dire non. Il veut dire, pasteur, prie pour moi. Jésus a su dire non quand on voulait faire de lui un roi. Il a su dire non quand on voulait l'obliger à monter à Jérusalem et à se faire voir. Il a dit non à ses disciples qui ont dit, renvoie la foule. Paul a dit non à ceux qui les suppliaient de ne pas monter. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Dieu m'a parlé? Je veux que l'on puisse prier pour moi.